journal local.
Jean-Louis Péguillan.
Madame, monsieur, bonsoir.
Ils étaient 6 au départ et se sont retrouvés 4 en arrivant au port. En fait, ce que le maire de Saint-Girons, Jean-Noël Vigneault, veut dire, c'est qu'il a fort peu apprécié les remarques suite au dernier conseil municipal, remarques sur les documents transmis lors du remplacement de l'adjointe Madame Ferré, démissionnaire, remplacement pour lequel il a proposé 2 conseillers municipaux et du vote qui s'en suivit. Marion Mousquet et Christophe Mirouz, membres du groupe minoritaire, étaient venus sur cette antenne nous dire leur désapprobation. C'est sûr, Jean-Noël Vigneault est un fervent auditeur d'RDC.
Essentiellement, l'ordre du jour au remplacement donc, de Madame Ferré, hein, maire adjointe en charge de l'éducation, de la jeunesse et de la communication, qui, suite à une mutation professionnelle, puisqu'elle a été nommée professeur adjoint à Tarbes, a souhaité, je le précise, rester membre du conseil municipal, mais compte tenu effectivement du nombre d'heures que nécessite un engagement de maire adjoint, a souhaité donc retirer sa candidature donc de ce poste d'adjoint.
On peut rester conseiller municipal sans habiter dans la commune? Ce sont des choses qui se font régulièrement?
Oh, c'est effectivement quelque chose que l'on constate régulièrement. Donc Madame Ferré est toujours impliquée dans les dossiers, hein, même si elle n'est plus maire adjointe. Elle est présente, bien sûr, lors des conseils municipaux. Donc on peut effectivement, on a aussi la possibilité de travailler ce que l'on fait, hein, notamment depuis le Covid. On tient pratiquement toutes nos réunions, je parle des réunions internes, hein, qui préparent le travail en présentiel pour ceux qui le peuvent et en visio pour ceux qui sont à distance, donc
ça ne pose pas de problème
particulier. Donc, une fois que cette démission a été validée par les services de la préfecture, il était donc nécessaire de la remplacer. J'ai fait la proposition au conseil municipal de la remplacer par 2 postes de conseillers municipaux délégués, pour la bonne et simple raison que Mme Ferré travaillait en étroite collaboration avec les 2 conseillers municipaux que nous avons souhaité présenter, un sur le plan de la communication et l'autre sur le plan de l'éducation et de la jeunesse.
Alors on peut les citer, on peut citer les noms?
Donc de notre côté, effectivement, les 2 élus qui se sont portés candidats, c'est donc Julie Sepp qui s'est portée candidate pour occuper ce poste de conseiller municipal délégué en charge de l'éducation et de la jeunesse. Et ensuite, l'autre conseiller municipal délégué qui a été candidat, c'est Léo Garcia pour la communication, sachant qu'il s'occupait déjà des finances.
Ça a posé quelques problèmes parce que déjà, lorsque les feuilles ont été distribuées, il semblait qu'il y avait déjà les résultats. Alors, est-ce que c'est une maladresse? Comment vous nous l'expliquez?
Alors soyons précis, hein, j'ai entendu effectivement les commentaires et d'ailleurs chacun fera sa propre analyse. Je veux rappeler quand même que c'est cette majorité et le maire donc élu depuis 2020 hein, qui ont souhaité que les conseillers municipaux soient retransmis en direct. Donc chaque Saint-Gironaise et Saint-Gironais peuvent aller revoir comme ils le souhaitent ce conseil municipal et faire leur propre analyse de la façon dont il s'est déroulé. Alors là où effectivement il y a eu quelques commentaires, bon moi je suis pas ici pour faire des commentaires, hein, je le dis de suite. Il y a des documents de travail qui sont donnés aux conseillers municipaux de la majorité et des groupes minoritaires qui sont censés préparer au mieux le conseil municipal. Donc effectivement, le fait de retrouver les noms sur un document de travail, je précise, permettait à ces différents conseillers municipaux de connaître bien en avance quels étaient les candidats du groupe majoritaire. Ensuite, je crois qu'il faut se dire les choses. J'ai entendu beaucoup parler de démocratie l'autre jour. Mais la démocratie, c'est effectivement le respect des urnes. Il y a un groupe majoritaire qui fait que, effectivement, les décisions qui sont prises sont souvent les décisions souhaitées par le groupe majoritaire. Ça ne devrait pas appeler, à mon avis, plus d'observation que cela.
Après cette polémique, après cette précision, il y a eu bien sûr un vote qui a donné quoi?
Alors, effectivement, c'était aussi l'intérêt hein, de ce vote. Ça donne une légitimité, bien sûr, aux heureux élus, mais c'est aussi l'occasion de se compter. Or, il faut constater que lorsqu'il y a eu la candidature donc, des deux membres du groupe minoritaire, qui est donc le groupe Nouvel Élan, je rappelle qu'il était composé de six élus en début de mandat, lorsque j'ai pu être amené à faire le décompte des voix, nous avons constaté, vous l'avez constaté, puisque vous étiez présent, qu'il y avait quatre voix. Donc je me permets quand même de faire ce constat que probablement la ligne politique qui est choisie aujourd'hui par certains membres du groupe Nouvel Élan n'est pas suivie par l'ensemble. J'ai entendu aussi que le maire devait faire des efforts vis-à-vis des groupes d'opposition. Bon, là, je souhaite apporter une précision. 2020, donc, nous avons installé le nouveau conseil municipal. Dès l'installation, nous avons souhaité impliquer les groupes minoritaires dans toutes les commissions. Lorsqu'il y a un travail...
C'est une obligation ou pas ?
Au point de vue nombre, tout est possible. Bon, nous avons souhaité qu'il y ait absolument... au moins un élu, si ce n'est plus, représentant chaque groupe élu lors des élections municipales, ce qui me semble tout à fait normal. Lorsqu'il y a un travail particulier qui est mené peut-être hors commission, je pense par exemple à la préparation du plan local d'urbanisme, je pense également à tout le travail qui est fait aujourd'hui sur le projet dans le cadre de Petites Villes de demain et autres. Nous faisons en sorte, quand je dis nous, groupe majoritaire, d'associer également systématiquement des représentants des groupes minoritaires. Voilà, donc je crois que, certes, parfois, on peut être amené à essayer de mettre le doute, mais je crois qu'on a apporté suffisamment de démonstrations pour laisser penser que nous sommes là pour faire vivre, comme il se doit, le conseil municipal de la ville de Saint-Girons.
C'est sur les hauteurs de Foix, au Prat d'Albis, que Claudius du Cap-Blanc, personnage ariégeois très connu pour ses sculptures sur ce qu'il appelait le féminin sacré, des sculptures en forme de vulve, a été retrouvé il y a quelques jours mort. Il avait à une certaine époque suscité mille passions. Il avait sculpté au Prat d'Albis, du côté où on a retrouvé son corps, plusieurs rochers toujours sur le même thème. Sculpture saccagée dernièrement par de grands courageux de l'anonymat. Il en était très affecté. L'hypothèse d'un suicide ne serait pas exclue. Cet été, nous vous avions proposé la visite de son musée, la Fabuloscope, très connu au Mas d'Asile. Je vous propose d'y retourner en compagnie de Bérangère. Donc, je suis avec Bérangère à la Fabuloscope, musée très connu des Couserannais parce qu'on a beaucoup parlé de cet endroit. Est-ce qu'on peut retracer un petit peu l'historique, Bérangère, de la Fabuloscope ?
Oui, bonjour. Donc, le musée de la Fabuloscope a réouvert sous la forme de musée tel qu'il est aujourd'hui en 2019. Donc voilà, vous venez déambuler sur 1500 mètres carrés d'espace répartis sur trois niveaux, avec 500 mètres carrés chacun, où vous venez découvrir plus de 30 ans d'ouvrages de Claudius de Cap-Blanc.
Alors, bien sûr, Claudius du Cap-Blanc, on ne peut pas parler de la Fabuloscope sans parler de lui.
Bien entendu, donc Claudius, donc l'artiste qui a créé plus de 650 œuvres que vous viendrez découvrir. Donc, Elles sont toutes de lui, toutes de lui. Donc il y a deux espaces mécaniques où vous rencontrez que de la machinerie sur deux étages, puis un espace plus organique où là Claudius nous explique le signe de la vulve.
Qui a fait débat d'ailleurs plusieurs fois.
Oui, c'est ça exactement, qui a fait débat. Mais Claudius est là pour célébrer le féminin sacré et le vivant au travers de ce symbole.
Alors aujourd'hui, pour visiter le musée, il faut combien de temps à peu près?
On compte plus ou moins 2 heures. Voilà, selon chacun se sent dans le lieu. Mais le fait est, c'est qu'avec la surface et les plus de 650 œuvres qui ont chacune un cartel qui raconte l'histoire de l'œuvre, effectivement, c'est dense et ça vient prendre 2 bonnes heures.
Est-ce que ce musée va encore s'enrichir d'œuvres de Claudius ou pour l'instant c'est en stand-by ?
Pour l'instant c'est en stand-by. Ce qui va venir s'enrichir très probablement, c'est plutôt le site Bétilac en plein air où ils gravent les rochers depuis déjà plus de 10 ans pour célébrer le féminin sacré in situ.